Le magazine des Nations Unies.
cas de violences sexuelles enregistrées au premier semestre 2020 en RDC. ONUFAM, qui note quelques avancées dans le cadre politique, appelle les gouvernements congolais à disséminer et à vulgariser ces cadres politiques pour lutter contre les violences sexuelles. Vous suivrez les explications de la représentante de l'ONU Femmes en RDC dans cette édition. Peut-être un grand pas dans la lutte contre l'impunité des chefs des groupes armés en RDC. L'un d'eux, Ntaberi alias Tcheka, vient d'être condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité et d'autres faits graves. La SADC est d'accord pour le réalignement des effectifs actuels de la brigade d'intervention. Objectif, permettre aux unités de réaction rapide de disposer d'un champ d'action nécessaire. La proposition a été adoptée lors d'un mini-sommet à Gaborone. Enfin, le Centre régional pour le désarmement et la paix en Afrique soutient la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre dans la non-prolifération de ces arsenaux en RDC. Un atelier de 3 jours a réuni une 60aine d'experts ici à Kinshasa. Les directeurs de cette structure relevant de l'ONU est notre invité. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à cette édition du Magazine des Nations Unies présentée par Jean-Pierre Elali Ikoko. Lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'événement a été célébré le 25 novembre dans les grandes villes de la RDC. Selon ONUFAM, la RDC a enregistré 16 910 cas de violences sexuelles du 1er janvier au 30 juin 2020, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres ont été fournis par la représentante de cette agence lors de la conférence bi-hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa mercredi dernier. Pour Madame Awasek, l'année 2020 a été spéciale en matière de violences sexuelles à cause de la pandémie Covid-19 et les confinements qui ont impacté négativement la vie des femmes et des jeunes filles en RDC. Madame Awasek note néanmoins quelques avancées engrangées cette année.
L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que le pays a lancé cette année 2 initiatives majeures, 2 plans majeurs. D'abord, le 2e plan d'action national sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'appelons plan d'action 2e génération. Au Nord Kivu aussi, un plan 1325 provincial a été adopté et le comité de pilotage de la 1325 a été mis en place par arrêté du gouverneur. L'autre bonne nouvelle, c'est que la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre a été adopté par le Conseil des ministres. Ces plans sont importants car ils donnent une vision et permettent une réponse concertée pour prévenir et agir contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais ces plans montrent aussi qu'il y a des réponses politiques à ces problèmes. Sous le leadership du gouvernement et avec l'appui des Nations Unies, et c'est la 3e bonne nouvelle, le numéro gratuit 122 fonctionne depuis 6 mois. Les opératrices et opérateurs répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les principales langues locales, pour conseiller et aiguiller les victimes et leurs proches vers les centres de prise en charge.
La SADC accepte la proposition des Nations Unies de réaligner les effectifs actuels de la brigade d'intervention de la force. La proposition a été adoptée au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC tenu le vendredi 27 novembre à Gaborone au Botswana. Objectif, permettre aux unités de réaction rapide de disposer d'un champ d'action nécessaire et constituer des unités de réaction rapide par les troupes provenant des pays contributeurs de la SADC. Les détails avec vous, Alain Irung.
Le sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe a exprimé sa gratitude aux Nations Unies pour le partenariat soutenu et le soutien constant apporté. Le sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe a assuré le soutien régional au développement et à la mise en œuvre de la stratégie conjointe de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO en République démocratique du Congo, indique le communiqué. Ouvert en début d'après-midi au centre des conférences de Pakalan, le sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe plus les pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo et du Mozambique a pris fin après 2 heures des travaux. Dans son allocution d'ouverture, tout comme celle de clôture, le président du Botswana, Dr Mogwetsi Eric Keabetswe, hôte du sommet et président en exercice de la Troïka de l'organe, a salué l'engagement de ses homologues pour prendre des stratégies qui s'imposent face à la menace du terrorisme en RDC et au Mozambique.
Notons que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part à ce sommet extraordinaire. L'autre actualité cette semaine, c'est la condamnation à perpétuité de Thabo Ntaberi Tcheka, ancien chef rebelle du groupe armé Nduma Defense of Congo, par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu pour crimes contre l'humanité et autres faits graves. C'était au cours de l'audience tenue lundi dernier à Goma. Outre cette peine, la Cour a condamné le prévenu au paiement de 50 000 $. Parmi les réactions à cette condamnation, celle de la chef de la MONUSCO. Leila Zerougui a salué ses jugements. Pour elle, ses verdicts est, je cite, « source d'un immense espoir pour les nombreuses victimes des conflits en RDC, les souffrances ont été entendues et reconnues. L'impunité n'est pas une fatalité. » Elle témoigne aussi la détermination des autorités congolaises à poursuivre avec notre soutien les combats judiciaires contre tous les criminels de guerre en République démocratique du Congo, passé et présent. Fin de citation. Le contrôle des armes légères et des petits calibres doit intégrer la dimension genre dans la lutte contre la prolifération de ces arsenaux. C'est la thématique qui a réuni du 23 au 25 novembre, ici à Kinshasa, près d'une centaine d'experts. Cet atelier de formation est organisé par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres avec le soutien technique du Centre régional de l'ONU pour la paix et le désarmement, MUREC, et l'appui financier de l'Union européenne. Le Centre antimine des Nations unies, UNMAS, a participé à ces travaux. Madame Erli Munoz, coordonnatrice de l'UREC, justifie les liens et la nécessité d'intégrer la dimension genre dans le processus de lutte contre la prolifération des armes légères en RDC. Elle s'est exprimée à notre micro.
En principe, il faut comprendre quels sont les concepts, la terminologie qu'on peut utiliser pour analyser ces sujets et après cela, faire les liaisons avec les armes légères et petits calibres ou le contrôle des APC. Et nous avons aujourd'hui la participation des experts genre qui nous parlent sur la différence entre genre et sexe et l'égalité des genres. Aussi. Une fois que les participants comprennent ces concepts, on peut commencer à faire la liaison avec des armes légères pour comprendre de quelle manière la prolifération des LPC, la circulation illicite et les mauvaises gestions des armes légères de petit calibre impactent les hommes et les femmes d'une manière différente. Mais pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi les garçons et les filles. Une fois que nous comprenons les impacts, les perspectives aussi, et quelles sont les conséquences ou les causes sous-jacentes. Alors, on va commencer à comprendre et analyser de quelle manière on peut arriver à mettre en œuvre des politiques de armes légères et de petits calibres.
Le directeur de l'UREC est l'invité de notre magazine ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le domaine humanitaire, une université au secours des étudiants des quartiers pauvres de la périphérie de Kinshasa. Il s'agit de l'université Progrès Kinshasa Est. Cet établissement d'enseignement universitaire privé basé dans la commune de Lancélé a organisé samedi 22 novembre sa toute première collation de grades académiques. 33 lauréats issus des quartiers pauvres ont obtenu ainsi leur diplôme de graduat. Son recteur, le professeur Emmanuel Kaoussou Mwanza Nka, en parle avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur.
Votre université a organisé sa toute première collation des grades académiques samedi dernier. Comment se présentent les résultats?
Les résultats étaient vraiment fantastiques, dans ce sens que nous avions eu 52 étudiants en principe de classe terminale et nous avons collé 35. Donc il y a eu, je peux dire, si je ne m'abuse pas, plus ou moins 75 à 78% de résultats positifs pour la première collation.
La ville de Kinshasa compte déjà beaucoup d'établissements d'enseignement universitaire. Qu'est-ce que votre université vient apporter de nouveau?
Effectivement, la question elle est fondamentale. Je vous en remercie pour ça. La ville de Kinshasa a de beaucoup d'institutions universitaires et supérieures, mais le constat est que toutes ces institutions sont situées dans la partie sud-ouest et centre et ouest. Alors que la partie la plus peuplée de la ville, c'est la Tchangou, qui n'a pratiquement pas d'institutions universitaires supérieures de qualité, surtout dans la commune où nous sommes, la commune de Lancélé. Donc ça, c'est déjà une réponse que nous apportons, c'est résoudre ces problèmes de localisation pratiquement et de nos institutions supérieures universitaires vers le centre, vers Gombe, vers Ngaliema et puis Lemba et ainsi de suite, alors que pratiquement là où vit la quasi-totalité de la population kinoise, plus de la moitié, se trouve pratiquement dans un milieu où il n'y a pas d'université. Donc on dirait que ces populations sont exclues du système universitaire national. Voilà ce qui nous a motivés d'installer une université de proximité mais de qualité dans la périphérie de la ville de Kinshasa, je citais la commune de Lancélé.
Dites-nous, professeur, quel impact la maladie de la COVID-19 a eu sur les activités de l'université Progrès Kinshasa-Est qui est installée dans un quartier pauvre de la ville?
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, cette maladie est une maladie qui est arrivée pratiquement donnée comme un coup d'arrêt aux activités qui étaient déjà au départ assez difficiles pour une jeune université, parce que cette année, c'est notre troisième année. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu la première collation des grades académiques cette année, c'est du troisième. C'est-à-dire que cette maladie est venue vraiment donner un coup d'arrêt, un coup de mort, parce que toutes les activités étaient pratiquement paralysées. Et vous conviendrez avec moi que dans un milieu comme ça, les parents vivent des activités pratiquement agricoles et de pêche ainsi de suite. Alors qu'ils ne peuvent le vendre que s'il y a des gens qui sont dans les possibilités qu'ils peuvent acheter. Ce qui fait que, avec que ce qui est arrivé, on a pu fermer les portes et la plupart de nos épintrants, de nos étudiants, se sont retrouvés pratiquement à la maison. Dans cette périphérie-là, les jeunes gens, s'ils ne sont pas à l'école, ils sont briquetiers, ils sont maçons, ils sont pêcheurs, ils sont agriculteurs. Ce qui fait qu'après la levée des mesures, et par les chefs de l'État et puis par le ministre de l'Enseignement avec les directives qu'il nous a données, la plupart de ces enfants ne sont pas rentrés. Donc il fallait faire encore un travail de contact auprès des familles pour faire voir aux familles que non, l'université n'était pas totalement fermée, mais qu'avec la reprise telle que les autorités viennent décider, il y avait possibilité pour nous de reprendre les activités.
Qu'est fait votre université pour promouvoir l'accès des filles aux études universitaires, professeur?
Effectivement, vous savez que, merci d'abord pour la question, vous savez, les filles, c'est parmi les personnes qui méritent une très grande attention de la part de notre communauté. Et surtout que vous savez qu'à travers le monde, précisément dans notre pays, les problèmes de violence faites aux femmes se multiplient de plus en plus. Et que les voix s'élèvent à gauche, à droite pour essayer de mettre fin ou de dénoncer d'une manière ou d'une autre et toutes ces choses. Et nous, à l'université, nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'abord de mettre un code éthique. Et ce code éthique, c'est un code éthique que nous remettons à chaque professeur, aux étudiants, comme au corps scientifique et académique, pour qu'ils comprennent que pour nous, la jeune femme ou la jeune fille qui vient à l'université est d'abord considérée comme un enfant qui vient pour apprendre. Et que les relations que nous devons avoir avec elle doivent être des relations de parents et étudiants. Et des relations malsaines qui peuvent être comme des relations qu'on décrit ailleurs, chez nous, ce n'est pas autorisé. D'ailleurs, nous avons eu par le passé à dire à certains corps scientifiques, à leur dire simplement au revoir, simplement parce que on a appris qu'ils voulaient effectivement bousculer les filles à gauche ou à droite. Et nous nous sommes dit, nous sommes une université privée, mais à vocation chrétienne, parce que nous-mêmes, nous sommes les croyants, et nous ne pouvons pas accepter que des pratiques obscènes puissent avoir lieu au sein de l'université. C'est ce qui empoisonne en fait le climat dans nos universités. Nous avons cette attention à nos filles, et ils ont la possibilité, via les structures que nous avons mis en place, de dénoncer tout ce qui peut y avoir comme pratique amorale, une pratique sujette à blesser leur conscience. Voilà ce que nous allons faire pour la jeune fille.
Oui, professeur, quels sont les défis à relever pour développer la partie est de la ville? Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la partie la plus peuplée, mais vraiment qui est moins développée par rapport aux autres.
Vous savez, les défis que nous avons, ce sont des défis d'abord d'ordre, on peut dire d'ordre matériel, d'ordre financier, mais d'ordre aussi humain. D'abord, un autre contact avec les autorités. Je peux vous dire, par exemple, que je me suis mis en route pour ici, et pour la radio Capi, je me suis mis en route depuis 12h30. Mais vous remarquez que vous me recevez ici à 16h. C'est parce que d'abord, je me suis rencontré pratiquement et avec des bouchons incroyables après toute la ville. J'ai un problème de mobilité dans la ville de Kinshasa et où je suis en train de donner des pistes, des solutions pour que nous y arrivions. Parce que dans la partie Est, nous ressentons ça. Parce qu'imaginez-vous, et puis ces milieux-là, ce sont vraiment des milieux périphériques qui ne sentent pas l'accompagnement de l'État, moins des autres organisations. Parce qu'à chaque moment que vous posez un problème ou que vous soulevez un problème, vous ne sentez pas vraiment les gens venir à votre rescousse pour vous trouver des solutions. Ce qui fait que nous sommes habitués à vivre par nous-mêmes et à trouver des solutions par nous-mêmes, même des solutions qui peuvent nous permettre à faire quoi? À vivre là où aucune condition et aucun espoir n'est perdu. Vous êtes habitué aux problèmes d'eau, vous êtes habitué aux problèmes de l'énergie électrique, mais ce qui est important, c'est que là, nous avons vu l'État se mettre au travail parce qu'ils ont commencé déjà à faire un déploiement avec l'électricité, selon les promesses d'ici décembre, nous pouvons en avoir. Mais nous savons que, bon, l'autorité trouvera le moment favorable pour qu'ils puissent nous répondre favorablement.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Kaoussou.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Ouvrons cette page de nouvelles par le Kassai central. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme apporte un appui financier aux avocats qui assistent les personnes poursuivies pour le meurtre de deux experts de l'ONU tués en mars 2017. Le montant de cet appui n'a pas été révélé. Le bâtonnier du Bureau du Kassai central parle d'un témoignage de reconnaissance pour le travail de ses avocats. Maître Dominique Kambala demande aux avocats de prendre conscience de leur part des responsabilités dans ces dossiers. Rendons-nous à présent à Goma, au Nord Kivu. Certaines femmes engagées dans la lutte pour le droit des femmes notent quelques avancées significatives dans la vie politique nationale et des textes, notamment dans le code de la famille. Nonobstant ces avancées, fait remarquer Mme Nelly Kieya, point focal du mouvement Rien sans la femme, les défis restent encore très nombreux. Enfin, en Ituri, une mission conjointe MONUSCO-autorité provinciale s'est rendue compte des difficultés de fonctionnement qu'éprouvent les centres de santé de Sota dans les territoires d'Irumu, à près de 50 km au sud de Bunia. En cause, la persistance de l'insécurité dans cette zone. Les habitants, principalement les femmes et les enfants, risquent leur vie chaque jour par manque de médicaments. Les responsables de cette structure médicale n'ont pas les moyens pour se déplacer vers Nyankunde, la zone de santé voisine, située à une dizaine de kilomètres, pour s'approvisionner en médicaments.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les armes légères et de petit calibre sont la première source des conflits armés en Afrique et en RDC. Ces propos sont de M. Anselme Yabouri, directeur du Centre régional pour le désarmement et la paix en Afrique, une structure relevant des Nations Unies. IRC a apporté son appui technique à l'atelier organisé par la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre et des réductions des violences armées du 23 au 25 novembre ici à Kinshasa. Il évoque l'importance de cet atelier et de la nécessité de lutter contre la circulation de ces arsenaux. Je vous propose l'interview qu'il nous a accordée.
Monsieur Yabouri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il vient de se tenir ici à Kinshasa, 3 jours durant, l'atelier de formation sur les armes légères, intégrant la dimension genre. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir concernant justement ces assises, monsieur le directeur?
D'abord, que c'est un atelier qui a été organisé par la Commission nationale congolaise de lutte contre les armes légères de petit calibre et de réduction de la violence armée, qui est une commission multi-ministérielle et multisectorielle qui est engagée dans la lutte donc contre les ALPC en RDC. Donc cet atelier s'est tenu avec l'appui technique du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, l'UNREC, que je dirige, et pour permettre le financement de cet atelier, nous avons bénéficié donc de l'appui financier de l'Union européenne. C'est un atelier qui a connu beaucoup d'engouement, qui s'est déroulé avec succès, parce qu'au départ, la CNCALPC, qui attendait 30 participants, s'est retrouvée avec le double, 60 participants. Ce qui démontre la sensibilité du sujet, parce que la première source de conflit, le premier moteur de conflit armé sur le continent africain, ce sont les armes légères de petit calibre. Et la RDC ne fait pas exception. raison pour laquelle il est très important de vraiment combattre ce fléau et de tout mettre en œuvre pour lutter contre la circulation illicite de ces armes légères de petit calibre.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme recommandation phare par rapport à ce fléau des armes légères?
L'une des recommandations, c'est de s'assurer que le travail de la Commission nationale puisse s'effectuer sur toute l'étendue du territoire et que les questions discutées, à savoir notamment la perspective genre dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères de petit calibre, doit être intégrée à tous les niveaux, n'est-ce pas, du travail de la CNC en termes de lutte contre donc les ALPC, mais pas seulement à Kinshasa, également dans toutes les provinces. Raison pour laquelle la CNC et ALPC a eu recours à des représentants qui sont venus des régions, qui sont venus de pratiquement toutes ces antennes régionales pour venir prendre part à cet atelier parce qu'ils vont servir d'agents de diffusion, n'est-ce pas, de la formation, des éléments techniques reçus au cours de cette formation.
Oui, monsieur le directeur, la RDC compte près d'1 million d'armes légères hein, et de petits calibres. Quelle stratégie conseillez-vous en tant qu'expert pour assurer un bon contrôle de leur circulation et empêcher même leur prolifération?
Bon, c'est une question nationale. Disons que le premier acteur...
Je vous pose la question en tant qu'expert.
Tout à fait. Je veux y répondre, ne vous en faites pas. Le premier acteur, n'est-ce pas, qui est en charge de la question, c'est la CNCALPC, qui est une institution congolaise. Parce que les solutions ne peuvent pas être dictées de l'extérieur. Les solutions doivent être trouvées par les acteurs nationaux eux-mêmes et mises en œuvre par les Congolais eux-mêmes. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est, en tant que institution des Nations Unies, de venir en appui, n'est-ce pas, aux institutions congolaises. Donc, nous apportons les experts qu'il faut. Nous avons, par exemple, une expert qui est basée quasi permanemment ici à Kinshasa, n'est-ce pas, qui est de l'UNREC et donc qui travaille étroitement avec la CNC et qui apporte, disons, ses conseils techniques, tout l'appui qui est demandé, non pas selon l'agenda des Nations Unies, mais selon l'agenda et les besoins exprimés par les institutions et le gouvernement congolais.
Oui, cet atelier s'est tenu dans un cadre bien défini d'un programme. Alors, ce programme financé par l'Union européenne ne concerne pas que la RDC. Quels sont les autres pays et qu'est-ce qui justifie aussi leur choix dans ce programme?
Que c'est un programme à l'échelle globale en réalité, donc que le bureau de désarmement des Nations Unies met en œuvre dans le monde entier. Plusieurs continents ont été ciblés et sur le continent africain, six pays sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de ce projet. En dehors de la RDC, nous avons la République centrafricaine, nous avons le Cameroun, nous avons le Niger, nous avons la Sierra Leone, dont le Rwanda.
Il y a 54 États en Afrique. Vous vous basez sur six pays seulement. Alors, qu'est-ce qui justifie leur choix?
Le point commun à ces pays, c'est d'avoir eu à subir des conflits armés ou de continuer de subir les conflits armés. Donc ça, c'est le point commun. Et deuxième élément, c'est aussi la volonté exprimée par ces États pour accueillir, n'est-ce pas, le projet en question. Et sur la base donc des résultats, ça pourra être répliqué et, disons, propagé vers les autres pays africains.
Monsieur Abouri, vous êtes directeur de l'UREC. Un mot concernant justement votre bureau.
Ok, merci. L'UNREC, comme je le disais au début de cette interview, c'est le centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Donc vous verrez qu'il y a deux grands mandats là-dedans. Le premier mandat, c'est de faire la promotion de la paix. Le deuxième grand mandat, c'est de désarmement. Donc d'apporter une assistance technique à tous les États africains qui en expriment la demande pour faire avancer le travail donc de désarmement et donc de réduction de l'insécurité, parce que comme vous le savez très bien, quand il y a l'insécurité, le développement humain, le développement socio-économique est entravé. Alors, comment s'est mise en place l'UNREC? L'UNREC a été créée en 1986 par l'Assemblée générale des Nations Unies, à la demande des Africains. Parce
en quelle année?
En 1986, ça a été créé. Un an auparavant, en 1985, l'ancêtre de l'Union africaine, à savoir l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avait adressé une demande expresse aux Nations Unies pour demander, donc, pour solliciter la création de ce centre afin de combattre, n'est-ce pas, les problèmes d'insécurité et promouvoir la paix et le désarmement.
Monsieur Anselme Yabouri, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà.
Le programme alimentaire mondial a lancé mardi le projet des cantines scolaires au village de Tabakongo, situé à 17 km au nord de Kalemi. Nous sommes là dans la province de Tanganyika. Ce programme cible les enfants de trois sous-divisions de l'enseignement primaire et secondaire et technique de Kalemi 1, 2 et 3. La cérémonie a regroupé les autorités provinciales et scolaires du Tanganyika. François-Xavier Mibé pour le reportage.
Le programme d'alimentation scolaire, autrement appelé cantine scolaire, que lance le PAM, cible dans un premier temps 35 000 enfants. Ces milliers d'enfants sont répartis dans 58 écoles de trois sous-divisions de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Kalemi 1, 2 et 3. Le chef de bureau du PAM, Yves-Gérard Aklamavo, parle des objectifs que visent ces programmes.
La première raison, c'est de pouvoir les maintenir à l'école, éviter les taux de déperdition. La seconde raison, ces repas équilibrés permettent de lutter contre la malnutrition. Et quand l'enfant est à l'école et qu'il mange, les parents ont moins de soucis. Ce que nous visons déjà, c'est d'augmenter le taux de rétention. Et nous l'avons pratiqué l'année passée et nous avons compris que le taux de rétention était de 95% dans les écoles que nous avons soutenues.
L'école primaire Butanda de Tabakongo a servi de cadre pour l'organisation matérielle de cette activité du PAM. Une école qui scolarise environ 450 enfants, composés en majorité des élèves de parents retournés. Le village de Tabakongo est une zone de retour. Ces enfants, qui ne manquent pas d'exprimer leur gratitude au PAM.
Un acte louable qui nous encourage dans le système éducatif. Nous disons merci.
Le programme d'alimentation scolaire du PAM a une durée d'une année scolaire. Des retours de Tabakongo, François Xavier Mibé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Nous vous laissons suivre la question de notre confrère Flavien Moussane de Planète Télévision, posée lors de la dernière conférence des Nations Unies sur les recommandations de l'ONU Femmes au gouvernement en matière de lutte contre les violences sexuelles. Et c'est Madame Awasek, représentante de ONU Femmes en RDC, qui répond.
Flavien Moussane, pour le compte de Planète Télévision. Vous venez de nous indiquer que vous avez eu des rapports, des différents rapports par rapport aux viols faites à la femme dans la province et aussi ici à Kinshasa. Mais moi, j'aimerais savoir maintenant, dans votre bureau, quelles sont les recommandations que vous, personnellement, vous avez formulées au niveau national et aussi au niveau provincial par rapport à tous ces rapports que vous avez eu dans votre bureau. Merci.
Cette année, comme les années antérieures, nous avons parlé avec les différentes parties prenantes parce que nous sommes des partenaires et nous appuyons un gouvernement. Et nous avons noté, et je l'ai dit dans ma présentation, nous avons noté que deux initiatives majeures ont été adoptées cette année par le gouvernement. Et pour nous, ça c'est une première recommandation que nous faisons, parce qu'il ne peut pas y avoir d'action concrète s'il n'y a pas le volet politique. Donc ici, le volet politique et stratégique a été mis en œuvre parce qu'il y a eu l'adoption de la stratégie nationale révisée contre les violences basées sur le genre. Et il y a eu également le plan d'action 1325, deuxième génération, pour la RDC. Et les deux ont été adoptés par le Conseil des ministres. Donc, ça signifie qu'au niveau politique, une des recommandations que nous faisions pour avoir un cadre politique et stratégique pertinent est en train d'être mise en œuvre. Maintenant, avoir un cadre politique est une chose. Disséminer ce cadre politique pour que tout le monde puisse le comprendre en est une autre. Donc, une forte recommandation que nous faisons et que tous les partenaires font, c'est qu'on passe à une dissémination de ce cadre juridique, stratégique, normatif qui existe, afin que partout en RDC, que ce soit à Kinshasa ou au niveau des provinces, les gens puissent comprendre le contenu de ces cadres-là, puissent l'approprier et puissent l'utiliser pour pouvoir lutter de manière efficace contre l'impunité, contre les violences faites aux femmes.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
« Un seul grand rendez-vous à noter dans vos agendas cette semaine, mardi 1er décembre 2020, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous voici à la fin de cette émission. Elle a connu le concours de François-Xavier Mibé et de Blaise Chindani. Au reportage, à la coordination et à la présentation, Jean-Pierre Elali Coco. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de Radio Okapi, la fréquence de la paix.